Vraiment, c'est nous qui vous remercions vraiment pour cette présentation et cette recherche très intéressante. Alors, j'ai vu passer quelques questions que je propose aux personnes de poser. Il y en avait une notamment d'Alice Meurice. Je vois que vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, ouvrir votre micro et poser votre question, ou je la pose à votre place comme vous le souhaitez.
Bonjour et merci beaucoup. C'était vraiment très passionnant. Donc moi, je suis paysagiste de territoire. Donc je travaille en milieu rural et j'observe des mutations des pratiques agricoles dans des territoires ruraux. Je n'avais pas connaissance de ça en Espagne et je trouve ça très frappant en tant que paysagiste au niveau de la transformation des paysages. Mais aussi, ça m'a beaucoup frappé à un moment de votre exposé. Ça m'a évoqué les traitements des travailleurs agricoles en général dans les sociétés qu'on est en train de fabriquer maintenant, les suicides des agriculteurs, la difficulté à trouver des travailleurs agricoles, etc. Et donc, ma question, parce que ça m'a quand même frappé, est-ce une politique publique, hein, c'est-à-dire l'ANAPEC, ça sonne comme une institution publique. Est-ce que c'est une institution publique? S'agit-il de la PAC? Comment ça se passe en fait cette organisation-là? Comment a-t-on pu produire des politiques publiques qui donnent ça? Ça m'interroge.
Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je réponde directement ou on
Ce qu'on
prend
peut
une question?
peut-être faire, c'est
On peut
essayer
prendre une
de poser chacun des questions courtes et d'avoir des réponses courtes, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer.
Mais est-ce que vous souhaitez que je réponde tout de suite à Lise Meurice ou
Oui, je
j'attends?
pense que c'est bien. Oui,
Oui,
autrement on va perdre le fil.
oui, vous répondez, on va faire au fur et à mesure.
Très
On a
bien.
du temps.
D'accord, très bien, très bien, très bien. Moi, je vous rejoins tout à fait hein, sur le constat qui est fait à la fois des suicides dans l'agriculture, mais aussi de la maltraitance qu'on pourrait avoir auprès des travailleurs agricoles. Alors là, moi, je parle particulièrement des femmes marocaines, mais on a beaucoup de travailleurs et travailleuses qui sont sans papier chez nous en Europe. On en a en France également. Et donc, ça pose la question d'abord de la régularisation hein, de ces hommes et de ces femmes, de leur bien-être au travail, parce que moi, je pense que c'est quand même très important. Et puis, du fait que cette pénurie de main-d'œuvre agricole, ça veut dire que personne ne veut finalement venir travailler dans ces travaux durs que sont les travaux agricoles et qui sont peu rémunérateurs, hein, il faut le rappeler aussi. Et donc, ces politiques, comme vous dites, ces politiques, c'est pas tant une politique publique qu'une politique pour, on va dire, ce que les États, je mets vraiment des guillemets en disant ça, ce que les États appellent la bonne gouvernance migratoire, bonne gouvernance politique migratoire, des politiques migratoires. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans un système entre le Maroc et l'Espagne, dans un système qu'ils appellent. À la fois la FOUTAIH et à la fois les membres de l'ANAPEC utilisent parfois le même vocabulaire ou en tout cas très similaire. Et tous les deux m'ont dit on est dans un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on gagne, nous le Maroc, on gagne, mais l'Espagne gagne aussi. Alors moi, je trouve que c'est quand même plutôt déséquilibré. Hein. Je pense que l'Espagne gagne plus que le Maroc ne gagne. Mais donc, les Espagnols nous expliquent que cette politique. À la fois, elle permet de répondre à un besoin de main-d'œuvre qui est ponctuel, et en même temps, elle répond à la lutte contre l'immigration clandestine sur laquelle l'Union européenne est très à cheval ces dernières années. Donc voilà, ils sont gagnants là-dessus. Et pour les Marocains, ils sont gagnants parce que ça ramène des devises de ces femmes au Maroc. Ça enrichit une partie de leur population qui sont en plus des femmes plutôt pauvres. Alors dans ce programme, normalement, on devait même les accompagner sur ce qu'ils appellent des activités génératrices de revenus. Alors ça n'a jamais été fait. Hein. Aucune femme n'a été accompagnée ni par l'ANAPEC ni par d'autres structures. Effectivement, oui, c'est... Et l'ANAPEC, pour répondre aussi à votre question, c'est vraiment l'équivalent du Pôle emploi, c'est-à-dire que c'est un service public qui répond au chômage des Marocains et des Marocaines. Et c'est avec l'ANAPEC que tous les contrats temporaires agricoles, notamment, se font dans le cadre de l'OFI avec la France. Hein, les saisonniers agricoles qui vont en Corse ou qui vont dans le département de l'Hérault, dans le sud de la France, ils se font aussi avec l'ANAPEC. Et l'ANAPEC gère aussi des migrations vers les pays du Golfe, par exemple. Moi qui ai fait, enfin, depuis quelques années, qui fait aussi des enquêtes de terrain à Dubaï, ben, j'ai appris que un certain nombre de besoins dans les pays du Golfe, dans les chantiers notamment, mais aussi dans les grandes surfaces comme les bouchers, les chantiers dans le carrelage, ils étaient très demandés, les Marocains. Il y avait des contrats aussi d'une année ou de deux années pour des hommes qui souhaiteraient aller travailler là-bas. Donc l'ANAPEC joue tout ce rôle d'interface pour répondre à la demande de main-d'œuvre à l'intérieur du pays, au Maroc, mais aussi à l'international. Et d'ailleurs, les gens de l'ANAPEC que moi j'ai interrogés, c'est la division de l'international de cette agence ANAPEC. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première question.
Si il y a une Alors, autre. Il y a des questions. Marie-Ange, la semaine, tu avais des... Oui, des questions.
Je vais m'activer. Bonsoir Shadia et merci beaucoup pour votre intervention passionnante. Moi, je me posais des questions par rapport au modèle d'exploitation en fait. Quelles sont ces exploitations, à qui elles appartiennent, comment est-ce que ça s'organise en termes de modèle d'entreprise, de modèle foncier, est-ce que on a eu une évolution agricole de ces modèles, passant d'exploitation familiale vers des firmes, voire vers d'autres types d'investissements. Qui sont ces employeurs et ces propriétaires agricoles?
Alors, je me suis moins penchée hein, sur mon travail d'enquête. Il s'est moins centré sur les employeurs, à vrai dire, mais ce que j'ai pu lire des autres travaux et ce que j'ai pu comprendre de mon terrain, c'est que c'est des riches exploitants agricoles avec des grosses firmes agricoles qui emploient des centaines d'ouvriers agricoles et ouvrières, surtout ces dernières années, et qui redistribuent cette fraise qui est vraiment devenue mondialisée, qu'on retrouve sur nos marchés européens. Donc, on est vraiment passé dans une économie, à mon avis, on devait être au départ sur des petites entreprises familiales qui ont très fortement grossi et racheté par des employeurs qui se sont fortement enrichis. Et d'ailleurs, sur le cas des agressions sexuelles de 2018, moi, quand j'ai commencé à mettre un peu le nez dedans, l'avocate m'expliquait qu'ils avaient beaucoup de difficultés dans la plainte qui a été mise en place parce que ces employeurs étaient très riches et qu'il y avait des accointances avec les élus, avec la police locale, et qu'il y avait une forme de mainmise sur on ne peut pas toucher... On ne peut pas toucher aux patrons agricoles parce qu'ils enrichissent fortement. Cet or rouge enrichit toute la province et l'Andalousie, mais il enrichit toute l'Espagne parce que c'est vraiment des milliers, des millions d'euros qui rentrent chaque année grâce à l'exportation de cette fraise. Donc, je pense qu'effectivement, ouais, c'est des employeurs qui se sont fortement enrichis ces dernières années et c'est des firmes qui sont importantes aujourd'hui, et le paysage agricole il s'est aussi transformé hein. Ces serres elles n'existaient pas, c'est vraiment une agriculture intensive qui s'est mise en place ces 15 dernières années dans le sud de l'Espagne.
Oui, juste pour rajouter une... Merci pour cette précision. Ça me fait penser à cet or rouge, à certains types d'agriculture que nous avons en France, dont la viticulture notamment, et où justement les investisseurs ne sont plus des propriétaires familiaux et on a vraiment encore d'autres types de d'investissements. Et donc voilà, c'était l'idée de savoir effectivement quel type de modèle mettait en place ces organisations organisation et ce type de travail. Voilà, merci. Merci Shadia. Je laisse la parole aux autres.
Merci Marie-Ange pour cette question. Mais c'est vrai que c'est des employeurs qui sont relativement forts et qui peuvent faire pression sur place, sur un certain nombre de choses qu'ils veulent mettre en place, sur le nombre de personnes qu'ils veulent faire venir. C'est-à-dire que même pendant, par exemple, la période de crise, ils ont réussi à imposer qu'on continue à faire venir des femmes marocaines, alors que beaucoup d'autres, des syndicats agricoles, demandaient à ce qu'on fasse moins venir de main-d'œuvre étrangère pour employer les gens qui étaient sur place. Mais eux, ils insistaient parce que cette main-d'œuvre, ils savaient qu'elle allait être rentable et qu'elle allait, que c'était des femmes travailleuses. Et ils ont vraiment un poids important dans la région. Moi, c'est ce que j'ai senti, en tout cas.
Je veux bien enchaîner parce qu'en fait, il y avait une question juste un petit peu pour préciser. Je pense que c'est Soumia qui demandait dans le fil de discussion, El Foutais, c'est organisé par qui, Espagne ou Maroc? Donc, peut-être que ce serait intéressant d'y répondre. Et avant de donner la parole à la scène, donc, je voulais juste... moi, j'avais une question sur le lieu, en fait, où vivent ces femmes en Espagne. Donc, on a vu, en fait, c'est des containers. Hein. Vous nous avez parlé de l'avenue de l'intégration. Là, c'est effectivement c'est une drôle d'image. Voilà, comment ces lieux sont désignés par les femmes, en fait? Comment ils sont désignés aussi par les employeurs? Enfin, de quoi on parle exactement et que deviennent ces lieux en dehors de la saison?
Alors, Soumia, d'abord, je remercie Soumia Demnati, qui est une de mes fidèles lectrices et qui suit beaucoup mes conférences. Donc, j'ai cru voir son nom. Je la remercie encore une fois d'être présente. Ça, je pense que c'est peut-être la troisième fois qu'elle m'écoute. Donc, merci à Soumia, qui est une jeune doctorante, jeune chercheuse qui va travailler aussi sur les saisonnières marocaines en Espagne. Merci pour cette question, Soumia, tout d'abord. La Foutais, c'est vraiment une organisation espagnole. Le responsable de la Foutais était un ancien intervenant social de la mairie de Cartaya qui a imaginé ce programme. Et d'ailleurs, ce qui était c'était assez rigolo et intéressant, c'est que c'était un ancien étudiant de l'économiste avec laquelle j'étais en lien à l'époque, Dolores Redondo Toronjo, et c'est aussi pour ça que j'ai eu un bon accueil aussi du sur le côté institutionnel par les responsables et les médiateurs. Donc la Foutais, c'est vraiment une fondation associative créée par les Espagnols et qui était rattachée à la mairie de Cartaya. C'est-à-dire que le président de cette fondation, c'était l'ancien maire de la mairie de Cartaya. Donc, il y avait vraiment un lien très fort avec la collectivité territoriale, avec cette mairie qui a mis en place ce programme de gestion éthique et dont est issu le directeur de la Foutais de l'époque. Donc voilà, c'est vraiment une structure espagnole, mais qui a travaillé main dans la main avec la NAPEC. Ils étaient très en contact. La mise en place de ces contrats en origine, il a été discuté entre la NAPEC et la Foutais. On a plusieurs niveaux. On a une convention qui est signée par le ministère de l'Emploi en Espagne et la mairie de Cartaya. Le ministère de l'Emploi au Maroc et la mairie de Cartaya en Espagne. Donc, une collectivité territoriale et un ministère pour le Maroc. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est plus opérationnel. C'est la Foutais avec ses employés marocains et ses médiateurs qui accompagnent les femmes sur le terrain espagnol, mais qui ne viennent pas au Maroc. Et on a l'ANAPEC avec ses médiateurs, ses agents de l'ANAPEC qui vont administrer le recrutement, qui vont faire le recrutement, la sélection. Et d'ailleurs, je crois, Soumia, tu as assisté l'année dernière au recrutement et je pense que tu aurais des choses à partager avec nous. Donc, n'hésite pas à prendre la parole. Mais en tous les cas, personne ne met le nez dans le travail de l'autre. Et même quand j'avais posé des questions à l'ANAPEC pour leur dire « Mais pourquoi vous n'y allez pas pour voir ce qui se passe ?» parce qu'apparemment, c'est compliqué ces dernières années. Il me dit « on va pas faire de l'ingérence dans le travail des Espagnols, comme les Espagnols ne vont pas dire vous recrutez mal vos femmes ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ils font confiance à l'ANAPEC qui recrute de A à Z ces femmes. Donc, voilà un peu le lien qu'il y a entre... Enfin, d'abord, qui est la Fouteh et le lien qu'il y a entre la Fouteh et le Maroc. Sur ces lieux d'habitation, alors, on a à la fois des maisons en dur, c'est-à-dire que là où moi, j'étais logée pendant la semaine d'observation participante, j'étais dans une maison en dur... mais on a aussi des espaces en tôle, en fait, hein, des formes de baraquements. Et certaines vivent aussi dans des forêts, dans des bidonvilles. Hein. Moi, j'ai visité deux lieux. Je ne vous ai pas montré, enfin, j'aurais pu les intégrer. Mais j'ai visité un endroit qui s'appelle la Casa del Gato. La maison du chat, ça s'appelle la maison du chat, qui est au milieu d'une forêt, en fait. Et où les lieux... les conditions de logement sont vraiment déplorables. On avait même, et en plus, ils se sont détériorés année après année, et encore plus à partir de 2012, parce qu'en fait, pour moi, entre 2012 et 2017, la situation s'est vraiment fortement aggravée parce que la Fouteh n'existant plus, les employeurs ont vraiment eu toute autorité sur ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire sur leur main-d'œuvre. Et sur ces saisonnières, mais aussi sur les logements qui sont des logements à la base qui doivent être gratuits et qui sont offerts par les employeurs. Donc, les employeurs ont soit des maisons en dur qu'ils mettent à disposition de ces femmes, soit des baraquements, des containers comme ceux que je vous ai montrés, où ils logent ces femmes. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ces femmes ne sont pas là? Ben, je pense qu'ils ne sont pas habités en réalité parce que la saison des fraises, elle est vraiment de 3 à 6 mois. Et ces lieux qui sont en format bidonville ou en format container, à mon avis, ils sont aujourd'hui fortement détériorés. Les maisons en dur également, elles ne sont pas très, très... Enfin, celle où j'étais, il y avait un point d'eau, il y avait une douche... il y avait de l'électricité, mais on m'a raconté aussi que ces lieux pouvaient être très, très difficiles à vivre et dans de mauvaises conditions de vie. Comment ils sont appelés? Alors, c'est intéressant comme question parce que moi, j'ai un chapitre encore de mon livre qui s'intitule « Welba, l'ouil ou le bla ». C'est un jeu de mots pour parler de Welba. L'ouil ou le bla, c'est des termes en arabe et c'est des termes qui ont été utilisés par des hommes marocains que j'avais rencontrés dans le cadre de ma thèse et que j'ai retrouvés quand je suis allée voir les saisonnières marocaines. J'en ai profité pour les revoir et ils me disaient, bon, ils étaient très, très critiques et très péjoratifs sur ces femmes qui venaient de mauvaise vie, qui sortaient, qui se permettaient d'avoir des relations avec d'autres hommes, pour d'autres, ils étaient prostituées, qui se prostituaient. Et donc, pour eux, ils ont appelé cet espace l'ouil ou le bla, c'est-à-dire un lieu de mauvaise vie, où des femmes de mauvaise vie, en fait, venaient pour faire un travail dégradant, parce qu'ils disaient même que le travail des fraises, c'est un travail de femme, parce que ce n'est pas un travail masculin, parce qu'on a tout le temps les doigts, les dos courbés, les mains dans les fraises, et que ce n'était pas un travail d'homme. Donc, ils étaient vraiment très dénigrants et très méprisants envers le travail de ces femmes. Et ils ont renommé cet espace genré de cette façon. Et j'ai trouvé ça assez... C'est assez intéressant de reprendre aussi la terminologie parce que c'est une forme de représentation qu'ils avaient aussi sur ces femmes, hein, parce que bien entendu, elles n'étaient ni des femmes de mauvaise vie, ni des femmes qui se prostituaient, bien entendu. Hein, mais cette liberté qu'elles pouvaient avoir de déplacement et parfois de liberté sexuelle pouvait être assimilée par certains de cette façon. Mais bien entendu, elles étaient loin d'avoir cette... C'était loin d'être la réalité de ces femmes qui étaient véritablement, pour moi, des femmes vraiment très, très courageuses, très, très travailleuses et qui venaient pour changer leur destin et pour cumuler un peu de capital économique et changer un peu la vie de leur famille. Hein. Donc, c'est vraiment important de le redire parce que on a beaucoup montré du doigt ces femmes, que ce soit au Maroc ou en Espagne. On les a beaucoup montré du doigt pendant les agressions sexuelles de 2018 et ça a continué un petit peu après. Et je trouve que c'est vraiment injuste pour elles qui sont vraiment voilà, des femmes qui viennent de loin, très marginalisées, qui se battent pour travailler et faire changer le cours de leur vie, le cours de leur destin. Et c'est aussi pour ça que mon livre, il s'appelle « Dame de fraise », parce que je trouve que c'est une manière de rehausser l'image qu'on peut avoir d'elle. Et pour moi, c'est vraiment des grandes dames, quoi. Et c'est important de les valoriser, de les reconnaître dans le statut dénigrant qu'on avait sur elles.
Je vois que Béa, j'ai vu que Béa, tu voulais prendre la parole. C'est pour ça que je fais un petit. Tu as une intervention à faire, Béatrice ou...
Oui, non. Alors, je crois qu'il y avait Latitude qui souhaitait intervenir depuis un petit moment aussi.
Ok, bien sûr, on attend. J'attends.
Et puis ensuite, oui. Il y a une poseur qui voulait aussi poser une question. Et Béatrice, on vous prenait la suite.
Ok, merci.
Oui, moi je voulais juste, du coup je me présente, je m'appelle Emmanuelle Hélion, je suis sociologue, j'ai fait une thèse sur la province dont parle Shadia, on s'était eu téléphoniquement il y a de nombreuses années, et du coup moi j'ai fait, ma thèse s'intitule « Importer des femmes pour exporter des fraises » et c'est aussi ce même cas d'étude, et je voulais juste apporter quelques précisions pour emballer le tout. On va dire, la première, ça serait sur le modèle agricole qui existe dans la province, donc c'est plus de 15 000 hectares de serre sur un petit territoire. Et, mais pour arriver à avoir une vision pas manichéenne, je pense qu'effectivement le secteur patronal fraisicole est très intégré et qu'il crée de nombreux des profits incroyables, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau... direct de la relation employeur-employé dans les champs, on a affaire à des gens qui sont très riches face à des gens qui sont très pauvres. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont des petites surfaces et qui ont effectivement tiré une grande rentabilité de l'or rouge pendant les années 90, mais on a affaire à un modèle dont la rentabilité s'érode de plus en plus avec le temps du fait qu'il est inséré dans une chaîne agroalimentaire globalisée. C'est-à-dire que les fraises vont à l'extérieur, elles sont exportées, et dans la mesure où c'est du sable et où la terre est stérile, est stérilisée par des intrants pour éviter les maladies, c'est pas la terre qui produit la richesse, et c'est des intrants achetés qui permettent cette production. Et c'est là que la rentabilité s'est érodée, tant les marges de la grande distribution ces dernières années, que les prix des intrants ont augmenté de plus en plus, et planter un hectare de serre, c'est 40 000 euros, comme disent les agriculteurs, sur le sol, dont on ne sait pas si on va pouvoir les récolter avant d'avoir la sortie sur le marché. Je pense que c'est aussi cette tension du propre modèle productif qui crée les violences auxquelles on a affaire et qui crée ce sexisme et ce racisme qu'on peut observer à Huelva et qui ont... Et voilà, j'ai l'impression qu'on comprend mieux les formes de violence et de tension de ce marché du travail en se penchant sur le modèle productif de manière fine. Aussi rappeler des éléments intéressants, je pense, c'est que les Marocaines viennent depuis 2006, mais elles viennent depuis 2000, en fait, comme l'a rappelé Shadia. Et ce qui est intéressant, c'est que la première venue de saisonnières marocaines est liée à la délocalisation par certains employeurs de Huelva de leur production vers le Maroc au tournant à la fin des années 80. C'est-à-dire que pendant les années 80-90, certains employeurs onubiens, certains employeurs de Huelva se sont installés au Maroc pour justement lutter contre la conflictualité du marché du travail, tant de la part des journaliers andalous que de certains saisonniers étrangers qui revendiquaient la légalisation. Et c'est là qu'on a vu s'exporter le modèle productif au Maroc. Et c'est ces mêmes employeurs qui, en 2000, avec l'ouverture de la procédure de contratación en origen, ont importé de leur ferme marocaine vers leur ferme espagnole des petits contingents de saisonnières qui sont effectivement, comme dit Shadia, des femmes plus jeunes que les critères qui ont été ensuite installée. Aussi dire que par rapport à ce programme de migration légale qui a été fortement subventionné par l'Union européenne, si la NAPEC joue ce rôle d'envoi à l'extérieur, c'est aussi parce qu'il a été fortement financé par l'Union européenne dans le cadre de ce que moi j'appelle l'externalisation des flux migratoires. Cette externalisation des flux migratoires, on a tendance à la lire souvent seulement externalisation du contrôle aux frontières, mais c'est aussi l'externalisation de la frontière comme filtre. Et c'est l'externalisation au pays d'origine de ce travail de tri qu'ils doivent mener pour envoyer des gens dans les pays du Nord. Et la NAPEC a touché, moi je suis pas bonne en millions, mais je sais que ce programme, quand on dit qu'il a été financé et subventionné, c'est plus de 10 millions d'euros qui ont été versés. Enfin, pour finir rapidement sur ce taux de fuite, effectivement, pour arriver à retracer la... Bon, d'abord, il n'y a jamais eu 17 000 en 2009 saisonnières qui sont venues à Huelva. C'est des chiffres officiels, mais en réalité, elles ne sont pas toutes passées. Et c'est vrai que moi, pendant ma thèse, j'ai longtemps cherché à savoir la différence entre les chiffres officiels et la réalité sur le marché du travail. Une des manières de faire ça, c'est de consulter la base pour l'emploi et de voir combien, par nationalité, de gens sont réellement employés à Huelva. Et on peut avoir accès à des stats par nationalité et par sexe. Et c'est là qu'on voit... qu'effectivement, alors je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais c'est, bon, je ne suis même pas sûre, ce n'est pas forcément évident, mais effectivement, quand au moment de la crise 2009-2010 chutent les chiffres officiels de la contratación en origen, en réalité, le chiffre d'ouvrières marocaines travaillant à Huelva reste relativement stable, ce qui indique forcément que beaucoup, beaucoup de saisonnières à ce moment-là sont restées.
Je suis d'accord.
Enfin, juste une dernière chose, parce que moi, c'est vraiment la seule problématisation sur laquelle je bute encore. Dire qu'aujourd'hui, que ce sont des grandes femmes, ces femmes qui viennent, en les opposant à celles qui potentiellement auraient pu avoir des échanges économico-sexuels à Huelva, c'est participer moralement à l'idée que seules les femmes violées à Huelva auraient moralement une valeur, et que toutes celles qui éventuellement participeraient à des échanges économico-sexuels dans ce cadre d'une grande précarité, en plus, j'ai vu, Shadia, qu'avec le groupe de femmes avec lequel tu travailles dans le numéro justement sur les Marocaines dans le Golfe, vous intégriez ces questions de comment la sexualité s'intègre au parcours migratoire. Moi, je ne suis pas sûre qu'on ait affaire à des femmes si différentes parmi celles qui partent dans le Golfe ou celles qui partent à Huelva. Et je suis persuadée que le degré de précarité dans lequel ces femmes sont placées provoque une intégration avec la sexualité et avec les ressources sexuelles des femmes dans ce contexte-là qui font de la sexualité une ressource migratoire. C'est très complexe d'en parler, c'est très difficile d'arriver à l'analyser, mais le nier... c'est quelque chose qui me paraît difficile aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Huelva, qui m'a pas mal
réagir, Shadia,
obsessionnée.
Comment ? Je voulais réagir et après on passera la parole à User et Béatrice.
Bien sûr. D'abord, merci beaucoup Emmanuel pour ce retour. Effectivement, on s'est eu il y a quelques nombreuses années. Donc, merci pour ces compléments d'informations pour certains que je n'avais pas et pour d'autres que je n'ai pas eu le temps de traiter, la question du sexisme et du racisme, la question de la délocalisation, la question de l'externalisation des frontières et des flux migratoires. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je rebondirai surtout sur ce que tu as dit à la fin, en fait. Moi, le terme de grande dame, j'y tiens parce que, en fait, c'est des groupes de femmes qu'on a énormément stigmatisées et dont on parle de manière très péjorative, que ce soit en Espagne où on ne les connaissait pas avant les agressions sexuelles. La marche du 17 mars qui a eu lieu, du 17 juin qui a eu lieu en 2018, qui a regroupé des groupes féministes, des associations de droits des migrants, des associations, des syndicats agricoles. C'était la première fois que tous ces gens-là se mettaient autour d'une table pour parler de ces Marocaines qu'on ne voyait mais absolument pas. à part dans nos rares travaux qui existaient. Et donc, on les a complètement invisibilisés. Au Maroc, on en parle vraiment de manière assez négative. Et pour moi, il était important que dans mon intitulé de cet ouvrage, on voit cette invisibilité, bien entendu, c'est pour ça qu'il y a ce sous-titre, et que on ait une forme de reconnaissance d'une certaine manière de femmes qui ont été fortement stigmatisées. Après, moi, je ne mets pas du tout de binarité entre les femmes qui vont vivre d'échanges économico-sexuels et celles-ci, et qui d'ailleurs pour certaines ont aussi ces échanges économiques et sexuels. Donc, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire dans cette dualité qui aurait pu exister dans mes propos, mais en tous les cas, en aucun cas, je ne fais de fracture entre celles-ci et les autres. Dans celles que j'observe dans mes travaux dans les pays du Golfe, à Dubaï, et c'est des travaux que j'effectue avec ma collègue anthropologue Nassima Moujoud. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les profils sociologiques, alors, ce n'est pas des femmes du milieu rural majoritairement, on est plutôt face à des femmes de milieu urbain, mais de classe sociale plutôt basse et défavorisée également. Hein. C'est sur celle-ci qu'on a fait le choix de travailler, même si parmi elles, on a aussi beaucoup de femmes qualifiées qui ont fait des hautes études, qui ont beaucoup circulé à l'international et qu'on retrouve aussi dans des hautes sphères à Dubaï. Et ça, c'est complètement différent de ce qui se passe en Espagne. Donc, je te remercie, ça me permet de parler aussi de cet autre terrain et de vous dire, parce que j'ai eu un échange avec Alain Tarius qui a sorti son livre, qui a une coordination avec plusieurs chercheurs et chercheuses que nous sommes. Et donc, on a deux articles. On a un article sur, j'ai un article sur Huelva, sur un certain nombre de choses que j'ai déjà dit là. Et puis, il y a un article sur mes travaux à Dubaï avec Nassima Moujoud. Et je vous invite à aller le voir parce que, justement, je parle plus précisément de ces parcours économico-sexuels, mais aussi de ces femmes qualifiées et de ces pionnières de la migration féminine dans les pays du Golfe. Et ça, c'est vraiment différent parce qu'on a des têtes de pont dans les pays du Golfe qui ne sont vraiment pas des têtes de pont de femmes qui subissent cette migration circulaire, parce qu'on est quand même allé les chercher, hein, celles qui partent en Espagne, alors que dans les pays du Golfe, on est quand même face à des femmes qui, à un moment, choisissent de partir de différentes manières, hein, d'ailleurs, parce que c'est très complexe aussi. Et je ne voudrais surtout pas schématiser ou simplifier le propos, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus complexe que la binarité que j'ai cru entendre que tu as cru entendre dans mes propos, qui n'était pas du tout le cas.
User, vous voulez poser vous avez une question à poser, je crois. Et ensuite, donc, ça sera Béatrice, et je pense que ça sera la dernière question parce que. Voilà, allez-y. Alors, il faudrait que vous branchiez, vous mettiez votre micro. C'est la petite icône qui est en bas à gauche.
Bonjour, c'est moi qui dois poser la question.
Oui, je crois, vous êtes user.
Ah, ouais. Non, moi, je suis Nassim.
D'accord, vous apparaissez sous le nom de user. Allez-y.
Ah, merci. Je vous remercie. Merci particulièrement, Madame Chadia.
Attendez, on vous entend très très mal.
Et maintenant, est-ce que ça marche?
Oui, beaucoup mieux.
Alors, je remercie Madame Chadia Ara pour cette échange, soi-disant. Bref, je me présente, je suis géographe, étudiant-chercheur à l'Université de Rabat. Au-delà de cette question, c'est-à-dire les problèmes auxquels les femmes font face au niveau de leur travail à l'étranger, moi, je pense que si on inverse le regard pour voir ce qui se passe après le retour des femmes, c'est très intéressant également de voir ce qu'on appelle le comportement migratoire de ces femmes quand elles font le retour, parce que c'est très, très intéressant. Le retour de ces femmes vers le local, c'est-à-dire est accompagné par un changement vis-à-vis leur territoire, leurs ressources, et en déclenchant un processus de patrimonialisation, soi-disant, parce qu'on assiste à l'émergence des nouvelles dynamiques locales. Par exemple, nous, moi, je suis habité à la région de Sousse-Massa, il y avait des femmes qui arrivent, c'est-à-dire à présider des coopératives pour partager leurs expériences, même si ce n'est pas les fraises, mais avec d'autres produits, pour dire, voilà, on a une expérience acquise à l'international. Ce qui est également intéressant, moi, j'ai aimé beaucoup la question de l'huile il blanc, parce que l'huile il blanc, cette expression mène également qu'il y en a une liberté de la femme, une indépendance, soi-disant, de l'homme et tout, de cette question, de, c'est-à-dire un bouleversement de la situation. Voilà, c'est tout ça ce que je voulais partager. Donc, moi, je pense que je voulais, j'aimerais bien que vous mettiez l'accent sur cette question de retour et de changement qui l'accompagne. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette remarque et question. Scène, je crois, c'est la scène. Ben moi, je ne l'ai pas beaucoup vu en réalité, hein, ce retour avec des femmes, parce que c'est ce qu'ils ont voulu nous faire vendre en réalité dans ce programme, c'est qu'on allait accompagner des femmes leaders et créer des coopératives de développement et que ça allait transformer leur vie et que ça allait transformer leur localité d'origine. En réalité, moi, ce que j'ai pu observer pour des migrations plus anciennes, comme les Marocains en France, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'il y ait un changement de regard et puis des formes de transformation des territoires d'origine. Ça s'est fait, il y a eu quelques travaux. Moi, je vous renvoie à ceux de Thomas Lacroix, notamment, qui a travaillé justement dans le Sousse-Massadra, dans le sud du Maroc, avec l'association Migration et Développement. Mais il y a aussi le réseau IDD, Immigration, Développement, Démocratie. Donc, c'est deux associations importantes en France qui travaillent sur l'accompagnement des associations issues de l'immigration marocaine sur des projets de développement au Maroc. En Espagne, sur les femmes saisonnières, j'en ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais vu de femmes leaders ressortir de ces parcours de femmes, présider des associations et travailler sur quelque chose de collectif. Moi, j'ai vu plutôt des transformations, mais plutôt sur la sphère familiale. C'est-à-dire que, puis on ne peut pas non plus demander à des femmes qui partent 3 mois, qui se font entre 2 et 3 000 euros quand elles ont bien travaillé, de venir développer leur territoire d'origine. C'est quand même un peu compliqué. Donc, je suis très intéressée si vous avez des femmes qui aujourd'hui, dans le Sousse-Massadra, président des associations ou des coopératives. Je suis très intéressée d'avoir ce retour et de me mettre en contact avec ces femmes. Mais moi, je ne l'ai vraiment pas observé dans les retours que j'ai faits au Maroc, surtout dans la province d'Azilal et de Beni Mellal, mais aussi à Larache, où j'avais été financée dans mon deuxième terrain en 2011 et 2012. Par une association maroco-espagnole qui s'appelait le CIREM à l'époque et qui devait accompagner aussi, moi je m'occupais du volet recherche, mais qui devait aussi accompagner des femmes sur la question du développement. Et en fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui n'avait été fait. Donc, moi je suis quand même très vigilante et dubitative sur le fait que ce type de migration pourrait donner lieu à de la patrimonialisation ou du changement profond des territoires. Ça change un peu leur vie, certes, mais ça s'arrête là, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas non plus leur en demander beaucoup trop. Voilà. Donc, merci, je suis encore d'accord avec ce qui a été dit sur l'huile il blanc. Hein. C'est une expression que je trouve tout à fait intéressante pour traiter... de ce lieu et de ces femmes. Donc, je peux peut-être prendre la question de Béatrice, si je crois qu'il y avait oui. Béatrice, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre, mais...
Merci. Après, il y aura Fayouz qui voulait poser une question également.
Bien sûr. Merci, je vais faire vite. Alors, première question, Dame des Fraises, c'est quoi cette expression? C'est toi qui l'as créée, tu l'as entendue, c'est voilà, quel type de construction, endogène ou exogène? Sur... les femmes en elles-mêmes, est-ce qu'on est sur des phénomènes, est-ce que tu peux parler aussi des questions peut-être de solidarité, de solidarisation entre femmes, ou à l'inverse, est-ce que tu as pu observer, comme nous ici on a pu observer dans les Champs de Provence, des formes de mise en concurrence et de compétition de ces main-d'œuvre féminines entre elles, c'est-à-dire on met les équipes, les Roumaines contre les Équatoriennes ou les Roumaines contre les... etc. Donc est-ce que tu as pu observer ça sur les postes de travail, des formes soit de solidarisation, soit de compétition entre les mains-d'œuvre et entre les mains-d'œuvre étrangères féminines. Et enfin, dernière question, puisque dans ta typologie, tu dis que tu as essayé de faire une typologie. Finalement, tu nous parles des haragas, qui est le terme, j'ai envie de dire, qui est le plus connu. Mais alors, quid de Mouima et Zoufria, puisque quand on ne parle pas la langue, évidemment, ça reste hermétique pour nous, quoi.
Alors, ça fait beaucoup de questions, Béatrice. Je vais essayer quand même de répondre à toutes ces questions, mais peut-être de manière
rapide, concise.
Voilà, rapide. Alors, Dame de fraise, doigt de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine. C'est un titre qui fait écho. Alors, il faut que je vous raconte aussi pourquoi j'ai choisi cette maison d'édition en toutes lettres, qui est une maison d'édition qui est pour moi aussi une maison d'édition militante, entre guillemets, puisque les choix de la collection Enquête sont toujours des choix de sujets où on touche aux questions d'inégalité, de difficultés, de violence. Et donc, le premier livre qui est sorti dans la collection Enquête de la maison d'édition En Toutes Lettres, c'est un livre de Hicham Oudaïfa, qui est un ancien journaliste et qui est co-directeur avec Kenza Sifriwi de cette maison d'édition. Et Hicham Oudaïfa, son premier livre, il a porté sur 7 portraits de femmes marocaines. Et il a intitulé son livre « Dos de femme, dos de mulet, les oubliés du Maroc profond ». J'ai énormément aimé ce livre. Et quand j'ai commencé à réfléchir à publier mon travail, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers lui et vers eux, et ils ont très vite accepté, même s'ils m'ont demandé de réactualiser un certain nombre de données et de retravailler un certain nombre de choses. J'ai voulu faire écho à son livre, donc c'est pour ça qu'il y a une forme de musicalité entre les deux livres, hein. Dos de femme, dos de mulet, Dame de fraise, doigt de fée, Les oubliés du Maroc profond, Les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne. Dame de fraise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme qui m'est venu en fait en enquêtant sur ces femmes, et plus je faisais des entretiens et plus je me disais elles ont des vies incroyables et extrêmement, pour beaucoup, très précaires, très marginalisées, très marginales, très difficiles, et elles n'ont rien demandé. On est venu les chercher pour aller en Espagne et pour travailler, et j'avais envie de donner quelque chose de positif dans l'imaginaire et dans les représentations qu'on avait de ces femmes. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé ce titre de Dame de fraise, qui peut paraître un peu poétique par rapport à la réalité qu'il décrit, mais qui était important pour moi parce que c'est une manière de rehausser, de valoriser ces femmes et de les reconnaître d'une certaine manière. Et je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, on le reprend, beaucoup de journalistes, notamment quand ils écrivent sur les saisonnières, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ils parlent de Dame de fraise. J'ai aussi fait ce choix, d'aller vers une maison d'édition marocaine parce que je voulais que mon livre soit lu au Maroc. J'ai qu'un seul regret, c'est qu'il n'ait pas été traduit en marocain, en arabe, mais du coup j'ai une vraie couverture médiatique au Maroc, plus qu'ailleurs, mais c'était important pour moi parce que mon premier livre, il n'a pas du tout été lu, ni vendu, ni connu par les Marocains et le Maroc, et j'ai aussi envie d'écrire pour les chercheurs et la société civile et le public marocain. C'était important pour moi. J'avais envie de dire autre chose. Oui, juste peut-être pour terminer sur l'intitulé et sur le fait que ça a été fait dans une maison d'édition au Maroc, je vous informe que ce livre est traduit en espagnol et qu'il va sortir début juin, le 2 juin, si tout se passe bien, et en italien. Il est en cours de finalisation. Il devait sortir avant, mais avec le confinement, il a pris un peu plus de temps, mais c'est un ouvrage qui va avoir une vie dans d'autres pays. Ça, c'est pour moi, c'est important aussi. Donc, ma maison d'édition fait un énorme travail de lien avec pour qu'il puisse être traduit et diffusé ailleurs dans le monde. Sur la question de la solidarité et de la concurrence, oui, effectivement, il y a de la concurrence entre les populations, entre les nationalités, mais il y a aussi de la concurrence entre les Marocaines. Par exemple, pour vous donner une anecdote rapidement, le groupe de femmes qui a porté plainte contre leur employeur sur les agressions sexuelles en 2018, ce groupe de 10 femmes qui accuse à la fois l'exploitation au travail, mais aussi les violences sexuelles, que j'ai retrouvées en 2018 et que j'ai interrogées, m'ont expliqué en fait que dans l'entreprise agricole où elles étaient, les anciennes qui venaient chaque année ont commencé à leur dire « Mais taisez-vous, ne parlez pas de ça, nous on le vit bien, pourquoi vous voulez en parler, pourquoi vous voulez les accuser, à cause de vous on ne va plus venir ». Donc ça a créé une concurrence et une fracture aussi hein, sur le discours à tenir. Et donc, ces femmes qui se sont échappées hein, finalement de cette coopérative et qui ont osé porter plainte contre leur employeur, ont été face à des anciennes qui venaient chaque année, qui, elles, ont fait une pétition pour soutenir leur employeur. Donc, vous voyez aussi ce qui peut se passer à l'intérieur même de la communauté marocaine. Donc voilà, ça c'était pour parler de la solidarité, mais aussi du manque de solidarité. À l'intérieur des maisons, moi j'ai vécu des moments où effectivement la solidarité elle était très forte. Elles faisaient leurs courses ensemble pour rentabiliser au niveau économique leurs économies. Elles faisaient le pain par exemple ensemble, elles mangeaient ensemble. Donc il y a une solidarité qui se met en place au fur et à mesure qu'elles vivent ensemble. Et enfin, sur la typologie, mais je vais aller très vite parce que ça serait tellement long à expliquer, mais les mouimettes, d'abord les haragates, elles sont peu féminisées. On parle des haragas, des brûleurs de frontières, de ces hommes marocains qui partent vers l'Espagne et l'Italie en traversant la mer Méditerranée, qui est une figure masculine. Donc moi, je l'ai quand même féminisée dans mon ouvrage. Donc je les ai appelées les haragates. Donc ça, c'est déjà un mot important parce que quand on parle d'invisibilisation du genre dans les migrations, c'est aussi dans les terminologies qu'on utilise. Donc moi, j'essaye de faire très attention à féminiser le terme de sans-papiers. Je parle de sans-papiers pour reprendre aussi un propos de Catherine Kiminal. Et donc pour les mouimettes, c'est les mamans en fait, parce qu'en fait elles sont toutes mamans, elles ont toutes des enfants. Et donc dans mon travail, j'essaye aussi de montrer la culpabilisation qu'on a sur ces mouimettes, sur ces mamans, puisqu'on les accuse d'être des mauvaises mères, des bonnes mères. Alors c'est des choses qui existent depuis bien longtemps hein, sur d'autres travaux. Je crois que c'est Mourouk Bazik qui en parle déjà sur les populations des femmes des pays de l'Est, et puis sur la Zoufria, c'est encore une fois une figure qui existe au niveau masculin, qui a été conceptualisée par Ahmed Boubaker, qui est un sociologue qui travaille sur l'immigration plutôt algérienne, et qui a parlé de ces hommes seuls qui viennent, qui s'installent sans leurs femmes en France dans les années 60-70, et qui vivent comme des zoufris, donc des ouvriers seuls, qui mangent seuls, qui travaillent seuls, qui n'ont pas de vie sexuelle, etc. Et donc, j'ai transformé ce zoufri, cette figure masculine, en zoufria, pour reprendre à une figure qui existait déjà et que j'ai essayé d'interpréter, de réinterpréter, de reconstruire à partir de ce que j'ai pu observer sur ces femmes marocaines en Espagne qui se retrouvent elles aussi seules et qui vivent de manière en zoufli, parce qu'en arabe zoufli c'est aussi une déformation de ouvrier, de l'ouvrier, mais c'est aussi une déformation du ça veut dire de la personne qui vit seule de manière modeste, pauvre, et qui mange seule dans le cadre de son travail. Voilà, c'est pour répondre aux questions de Béatrice.
Gaëla, l'oiseau avait une question à poser.
Ah, mais j'avais une question aussi. Je pense que c'était à moi, non?
Ah, oui, pardon. Ah
oui, Fayrouz, ouais, j'avais demandé à poser une question.
Oui. Donc, Gaëla, tu fermeras la discussion.
Bonsoir Shadia, merci beaucoup pour l'intervention, c'était vraiment une discussion hyper passionnante et enrichissante. Alors comme je disais, moi je suis en première année de doctorat et je travaille justement sur les mobilisations sociales au Maroc, et je travaille sur la question des ouvrières agricoles et ouvriers agricoles vers la région de Souss-Massa. Et ben, du coup je voulais vous poser une question, enfin j'avais deux questions à vous poser. Une sur, moi je m'intéresse au rôle plutôt entre la société civile et les ouvrières agricoles et aussi les syndicats, du coup pour essayer de comprendre un peu les dynamiques de mobilisation des ouvrières, les campagnes et les luttes les luttes des ouvrières qu'on connaît, hein, qu'on a connues depuis 2011, mais aussi après.
Et je voudrais vous demander, du coup, est-ce que du coup, il y a ces dynamiques, vous avez remarqué qu'il y a ces genres de mobilisation en Espagne, et est-ce que, du coup, il y a une forte présence des syndicats espagnols qui s'intéressent à cette question de précarisation de la main-d'œuvre, surtout que la précarisation des ouvriers agricoles, c'est un sujet qui est mondial et qui a beaucoup été travaillé, enfin, qui n'est pas justement limité qu'à l'Espagne ou au Maroc, mais c'est un phénomène mondial qui a beaucoup été étudié. Mais je m'intéresse justement à ça au Maroc. Et une autre question, c'est le rôle des organisations internationales dans tout ce processus de migration circulaire. Vous avez expliqué tout le processus, la relation entre le Maroc, le ministère du Travail à travers l'ANAPEC, l'Union européenne. Ce qui m'interpelle, du coup, c'est le rôle d'organisations type, par exemple, l'OIM et tout ça, qui sont très impliqués dans la question migratoire et qui, je pense, sont aussi impliqués surtout après le scandale des harcèlements et des cas de viol à Huelva, mais pas que. Et du coup, je voudrais vous poser une question sur si vous avez plus d'éléments sur ça. Merci. J'ai essayé d'être très très brève. Du coup, je voulais parler
des sportifs.
Ouais.
Merci beaucoup Félouz, moi je suis très intéressée par le travail que vous allez produire sur les ouvrières agricoles, si j'ai bien compris. Moi j'écris beaucoup avec une sociologue marocaine qui est Zohor Bouzidi qui travaille beaucoup sur les ouvrières agricoles, donc je sais pas, j'espère que vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas,
je l'ai rencontrée au Maroc.
D'accord. Bon, très bien, parce que pour moi, d'abord, c'est l'encadrante de Soumia Demnati, dont on a parlé tout à l'heure, et puis c'est une collègue avec qui j'essaye de travailler, parce que c'est très important de travailler, de ne pas écrire seul avec notre regard du Nord européen, mais de travailler avec nos collègues du Sud de la Méditerranée et de pouvoir créer des passerelles, travailler ensemble, écrire ensemble, c'est très important également. Donc c'est très bien si vous la connaissez. Sur les dynamiques associatives et syndicales, moi avant les agressions sexuelles de 2018, j'ai pas vu les syndicats, j'ai pas vu les associations s'intéresser à ces femmes, mais peut-être que je me trompe. À partir de 2018, en tout cas, il y a eu une forte mobilisation et une forte visibilisation des associations qui se sont mobilisées pour soutenir ces groupes de femmes contre ces agressions sexuelles, mais pas seulement sur l'exploitation au travail. Et du coup, moi, j'ai rencontré en 2018 un des responsables du syndicat agricole des travailleurs en Andalousie, qui a un discours, bien entendu, très humain sur la question de l'exploitation faite à ces femmes, le SAT. J'ai rencontré aussi des associations et des collectifs de migrants et de femmes, donc des associations féministes, des associations de droits humains et de droits des migrants qui étaient peu présents sur cette thématique. Et puis, on a eu aussi une société civile marocaine peut mobiliser aussi finalement, et en fait ces agressions sexuelles ont mis en exergue plus que ces agressions sexuelles, elle a mis en exergue aussi l'exploitation qui était faite envers ces femmes, et donc on a eu beaucoup de tribunes qui ont été mises en place par la MDH, l'Association marocaine des droits humains, mais aussi la DFM, l'Association démocratique des droits des femmes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Pateras de la Vida à l'arrache aussi qui a beaucoup communiqué là-dessus. Moi-même, j'avais écrit une tribune « Nous sommes toutes des dames de fraises » à l'issue de ça, que j'avais publiée dans Mediapart, qui a été signée par près de 150 personnes, dont beaucoup d'associations et espagnoles et marocaines, et qui a été traduite en espagnol. Donc, il y a eu une dynamique qui s'est créée à partir de ce moment-là. Mais jusqu'à avant, je pense que vraiment, elles étaient invisibilisées et vraiment pas très connues. On était peu de chercheuses à travailler là-dessus, quelques journalistes qui ont fait quelques écrits, mais véritablement pas fortement soutenues comme elles pourraient
l'être un peu plus, en tout cas plus visible aujourd'hui et un peu plus soutenu et mobilisatoire, on va dire, sur cette cause. Et j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui se met en place doucement, mais pas encore très, très structurée. Sur le rôle de l'international type OIM, moi, je n'ai jamais vu l'OIM parler de ça. J'ai beaucoup présenté mon travail au Maroc dans des associations ou dans des espaces comme celui-ci, hein, des espaces d'échange entre chercheurs mais aussi société civile. J'ai jamais vu l'OIM parler de cette migration des saisonnières. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que l'Union européenne a montré du doigt ce projet comme un projet modèle à suivre parce que ça répond à la fois à une rentabilité économique, un besoin économique, tout en luttant contre l'immigration clandestine. Donc, c'est vers ça qu'il faut que l'Union européenne aille. Donc, je n'ai pas trop d'informations là-dessus, Fairouz, mais peut-être que ça existe, mais j'ai peu d'informations là-dessus. Mais effectivement, c'est un volet à creuser, à mon avis, pour la suite. En tout cas, merci pour vos remarques et j'ai hâte de lire votre travail sur les ouvrières agricoles du Sousmassadra. J'ai beaucoup de saisonnières marocaines qui sont issues du Sousmassadra, qui ont travaillé, qui sont de Benimlel ou d'Azilel et qui sont passées par le Sousmassadra pour travailler dans l'agriculture ou l'industrie et qui se retrouvent ensuite en Espagne. Donc, c'est intéressant aussi ces parcours-là.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y avait une dernière question?
Il y avait Soumia et Gaëla, si c'est possible. Il y aurait ensuite une remarque d'Alice.
D'accord.
On va voir si c'est possible. Soumia, c'est à vous. Il faut que vous cliquiez sur votre micro. Soumia?
Oui, bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. Ravie de vous voir. Et c'est vraiment merci pour à Shadia. C'est vraiment quand à chaque fois où j'ai assisté à ces rencontres et ces conférences, j'apprends beaucoup. Donc je voulais juste rajouter quelque chose à propos de l'ANAPEC. Je ne sais pas si je peux partager mon écran ou non. Donc, ici, il y a le processus des ouvrières. Donc, ils sont à la porte de l'ANAPEC et chaque femme attend son rôle pour un entretien avec des chefs espagnol. Donc, je voulais juste dire que les entretiens passés à l'ANAPEC sont passés par des chefs espagnols et des marocains. Donc, il y a des questions posées par les chefs espagnols et sont traduits par des marocains. Et dans la salle d'entretien, il y a ici un espagnol avec un marocain, marocain espagnol et marocain espagnol. Donc ici il y a trois ouvrières, dans la salle d'entretien. C'est ça ce que je voulais dire. Donc j'ai une question pour les ouvrières qui sont coincées maintenant à Bilbao. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je voulais que Shadia me réponde, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour les femmes marocaines ouvrières qui sont coincées là-bas en Espagne? Et merci.
Très bien. Ben, merci, Soumia, pour cet apport de terrain, puisque tu as fait ton mémoire de master là-dessus avant de débuter ta thèse. Donc, tu as suivi ce processus de recrutement du côté marocain et c'est extrêmement intéressant de pouvoir partager ça avec nous. Sur celles qui sont aujourd'hui en Espagne, on ne parle pas encore du fait qu'elles soient bloquées parce qu'on parle de 28 000 Marocains et Marocaines qui sont bloqués dans le monde, à l'extérieur du Maroc et qui ne peuvent pas rentrer chez eux du fait de la crise sanitaire et du fait de la fermeture des frontières
assez draconienne aujourd'hui qui est faite par le Maroc, puisqu'ils refusent de faire rentrer des gens, même s'ils ont fait sortir quelques ouvriers marocains pour les envoyer vers l'Italie ou vers l'Angleterre, par exemple. Donc, sur la question de Huelba, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'ANAPEC avait prévu d'envoyer 16 600 femmes marocaines, que 7 000 ont réussi à être sur place et qu'aujourd'hui, ces 7 000, ben, elles travaillent, on leur a prolongé les contrats, c'est ce que j'ai appris encore récemment. Donc, je pense qu'elles vont y être peut-être jusqu'en juin, jusqu'en juillet, on ne sait pas trop. Et va se poser la question ensuite de quelles priorités on donne sur les retours de ces Marocains et Marocaines qui sont bloqués à l'extérieur du pays. Est-ce que ces femmes vont être prioritaires ou pas? Est-ce que ces femmes vont avoir le droit de rentrer ou pas le droit? Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est, à mon avis, traité et discuté au Maroc. Donc, pour l'instant, elles travaillent et je pense que dans quelques mois, on va en savoir un peu plus.
Merci, Shadia. Gaëla, tu vas peut-être clore alors le bistrot. Ah, tiens, faut que tu rallumes ton micro.
Oui, on va. Merci beaucoup. C'est une conférence qui est très riche. Et en fait, je voulais intervenir parce que ça fait écho à une autre conférence qu'on a eue en fait cette année avec Félicie Drouillot qui a travaillé sur les employés domestiques à Bogota. Et en fait, elle parle de dépossession maternelle. Et je trouvais que c'était un concept. En fait, j'ai repensé en vous écoutant, parce que vous parlez quand même du fait que finalement, la condition pour travailler, c'est finalement le fait d'avoir un rôle maternel. Enfin, et en fait, en réalité, on les prive d'une certaine manière, enfin temporairement en tout cas, de ce rôle maternel. Alors, vous en parlez peu finalement. Est-ce que vous avez pu aller un peu sur ce terrain de la relation, de la construction de cette relation avec cette contrainte de cette privation, même temporaire, mais parce que c'est pas, et bien évidemment que ce n'est pas comparable avec le cas d'employé domestique, on est bien d'accord, mais j'imagine que la famille prend le relais, etc. Mais peut-être que c'est intéressant de voir s'il y a. Je pense là à une échelle en fait plus transnationale, parce que est-ce que vous voyez quelque chose qui se dégagerait finalement dans toutes ces analyses de l'emploi des femmes et de la migration en fait professionnelle des femmes, qu'en est-il finalement de la construction de leur condition de mère aussi et de leur rôle en tant que mère vis-à-vis de ses enfants, de la construction du lien et de l'affiliation. Merci.
Oui. Bah, écoutez, d'abord, Yaëlla, merci beaucoup parce que ce concept de dépossession maternelle, je ne le connaissais pas. Moi, j'avais réutilisé les travaux de Myriana Moro-Gvasi qui parlait de bonne mère, mauvaise mère et de la manière où Laura Osso, qui a travaillé sur les Espagnols aussi, qui utilise aussi ces termes pour montrer du doigt ces mères qui abandonnent, entre guillemets, leurs enfants pour partir travailler. Donc, je ne connaissais pas ce terme de dépossession maternelle. J'ai peu travaillé finalement sur le rôle maternel et sur la relation, mais je sais que c'est c'est la condition la plus difficile à vivre pour ces femmes qui sont séparées plusieurs mois de leurs enfants, parfois en bas âge. Parmi les femmes qui ont porté plainte contre leur employeur en 2018, il y en avait une qui est partie enceinte et qui a couché sur le territoire espagnol. Parmi une autre de ce groupe de 10, parmi elles, il y avait une qui avait laissé un bébé en vraiment de 3-4 mois, et quand elle est allée voir l'ANAPEC, elle leur a dit « Mais est-ce que je ne peux pas plutôt attendre l'année prochaine quand il aura un an que je puisse partir ?» Et ils lui ont dit « Cette année, on vous prend, mais l'année prochaine, on ne sait pas de combien on aura besoin, donc peut-être que l'année prochaine, on ne vous prendra pas. » Donc, elle a décidé de partir. Donc, ça crée, et puis comme je vous l'ai dit aussi, le fait que on est sur des femmes qui ont plusieurs enfants parfois et qu'elles ne peuvent pas les laisser dans un même espace parce que c'est compliqué à gérer les enfants des autres. Donc, parfois, elles les séparent et ça crée vraiment des familles qui sont déstructurées. Donc, je pense que la condition de mère, elle est fortement, fortement affectée. Et puis, on a aussi des discours des enfants. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de ces femmes qui... des enfants qui en veulent à leur mère, même si elles arrivent avec des cadeaux et avec de l'argent, qui en veulent à leur mère de les avoir laissés pendant 3-4 mois, quoi. Donc, je pense que ce lien est rendu complexe par cette séparation. Dans cette séparation, il y a à la fois cette dépossession maternelle, hein, comme le dit cette collègue qui est passée... il y a quelques mois dans le bistrot des ethnologues, mais il y a aussi, moi je parle aussi de la séparation avec les maris pour celles qui sont mariées, parce que pour la moitié d'entre elles, ce sont des femmes mariées, et c'est des femmes qui pendant plusieurs mois n'ont pas non plus, enfin peut-être pas en tout cas toutes, de relations sexuelles, parce que certaines s'autorisent aussi à avoir des relations avec d'autres hommes, mais en tout cas, elles sont séparées de leurs hommes et elles sont séparées sexuellement aussi, hein, de ces hommes. Et on a eu quelques travaux sur la solitude sexuelle des hommes qui sont venus dans les années 60 et 70, notamment le travail de Tahar Benjelloun, qui s'est intitulé « La plus haute des solitudes » pour décrire la solitude sexuelle de ces hommes. Mais on n'a jamais parlé de ces femmes qui partent seules et qui se retrouvent aussi parfois dans une solitude sexuelle, même si dans mon travail j'explique aussi qu'il y a une forme de liberté sexuelle qui se prend pour un certain nombre d'entre elles, qui s'autorisent du fait qu'elles sont à l'étranger d'avoir des relations avec d'autres hommes, et qui parfois même peuvent terminer par des relations sérieuses et des mariages, et même des mariages mixtes. Donc voilà, il y a cette séparation avec les enfants, mais il y a aussi la séparation avec le mari ou la famille de manière entière qui a questionné, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça pose un certain nombre de questions, et que le concept de dépossession maternelle pourrait être tout à fait intéressant à utiliser pour en parler.
Merci, hein, je trouve que c'était très riche. Bon, il est 10h15. Donc voilà, je pense qu'on peut en rester là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne. Enfin, c'est quand même assez complet.
Nous vous incitons à lire cet ouvrage, donc l'ouvrage de Shadia Arab, qui apporte aussi beaucoup de réponses aux questions que vous n'avez pas forcément pu poser aujourd'hui. C'est vraiment un ouvrage qui prend en compte énormément d'aspects. Tant sociologique qu'anthropologique, en fait, de ces courants migratoires, et vraiment n'hésitez pas à le lire.
En tout cas, merci d'être venus nombreux, et c'était presque un séminaire, hein, ce soir, hein. Je tiens à souligner, normalement on est plus ouvert sur le grand public, mais là on était dans presque dans un cadre de travail. C'était très intéressant, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Et voilà, alors c'est vrai que c'est un peu triste d'annoncer que c'est la dernière séance de la saison, parce qu'en fait c'était un réel plaisir que de vous retrouver là, c'est mardi pour le bistrot, y compris de manière derrière un écran, mais en fait je pense qu'on y a tous trouvé un grand intérêt. Donc de toute façon on vous tiendra au courant sur notre site, et voilà, si on est amené à reconduire l'expérience à la rentrée, on continuera de cette manière-là, hein, de toute façon, et puis on va se débrouiller. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et Shadia, peut-être si vous avez un petit mot à dire pour finir.
À mon tour, vous remercier, hein, parce que c'est vrai qu'on a failli pas la tenir cette séance, donc je suis finalement contente qu'on réussisse à la faire. J'aurais voulu être avec vous de visu et en réalité, mais c'était une très belle séance, et je voulais encore une fois vous remercier à la fois de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de présenter mon travail, et puis pour tout le travail que vous faites de diffusion, de vulgarisation des travaux de recherche en ethnologie, en anthropologie, mais aussi en sociologie et en géographie sociale, puisque je ne l'ai pas dit, mais je suis géographe. Voilà, donc merci encore pour cet espace de parole et cet échange.
Merci beaucoup, merci à tous, et à bientôt au bistrot des ethnologues, hein. Au plaisir de vous retrouver. Voilà, merci encore une fois, Shadia.
Merci encore.
Au revoir et à tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.